Première partie. Chapitre 1. Au bord d'une voie rapide, dissimulée derrière des congères d'1,50 m de haut, se cache une cahute isolée, dont les murs bleu canard tranchent avec le gris de l'asphalte et des grandes surfaces voisines. Les automobilistes de la région la connaissent bien et beaucoup s'y arrêtent sur le chemin du travail pour prendre un café à emporter. Le 1er février 2012 au soir, Samantha Koenig, 18 ans, était seule pour tenir ce café où elle était employée depuis moins d'un mois. Ce jeudi 2 février, personne ne sait où elle se trouve. Sa disparition est signalée dès le matin par la première serveuse à venir prendre son poste. À son arrivée, elle comprend tout de suite qu'il y a un problème. D'habitude, Samantha prend soin de tout ranger avant de fermer la boutique. Or là, rien n'est à sa place et la caisse a été vidée. Toute la journée, la police d'Anchorage, Alaska, cherche à glaner le plus d'informations possibles sur Samantha sans parvenir à dégager la moindre piste intéressante. Samantha est en terminale. C'est une adolescente plutôt appréciée, qui sèche parfois les cours et a peut-être eu des problèmes de drogue par le passé. Elle s'entend bien avec tout le monde, et pas seulement avec les élèves les plus populaires du lycée. Deux personnes comptent vraiment pour elle. Son petit ami, Dwayne, avec qui elle sort depuis presque un an, et son père, James, célibataire. Alors, enlèvement ou fugue? Si la première hypothèse reste probable, les enquêteurs penchent plutôt pour la seconde. En effet, la police n'a trouvé aucun signe de lutte. Le café est équipé d'un bouton d'appel d'urgence, mais Samantha ne l'a pas actionné. Elle a utilisé son téléphone portable avant et après sa disparition. Elle s'est disputée avec Dwayne par texto, lui a demandé de la laisser tranquille et l'a accusé de la tromper. Cependant, elle a aussi téléphoné à son père pour lui demander s'il pouvait passer au café et lui apporter quelque chose à manger. Pourquoi faire une chose pareille si elle comptait fuguer? Estimant que cette disparition sera un excellent galop d'essai pour sa nouvelle recrue, le sergent-chef du poste de police d'Anchorage décide de confier l'affaire à Monique Dole, qui, à 35 ans, effectue son premier jour à la brigade criminelle de l'APD, Anchorage Police Department. Dole est la troisième génération d'une famille de flics, et elle vient de passer 10 ans à la lutte contre le trafic de stupéfiants, dont 4 années en mission d'infiltration pour la DEA, Drug Enforcement Administration. Bref, elle a déjà un CV bien fourni. Dole se démarque également des autres agents de police d'Anchorage par son physique, qui fait honneur à son nom de famille. C'est une jolie blonde, qui répond pourtant au surnom androgyne de Mickey. Elle est mariée à une autre star de l'APD, le beau Justin Dole. À l'échelle locale, ils forment ce qu'on pourrait appeler un couple influent. Le sergent-chef annonce donc à Dole que c'est elle qui se chargera de cette affaire, une disparition suspecte, pour reprendre les mots du supérieur. De l'autre côté de la ville, Steve Payne, agent du FBI, est en train de boucler une affaire de trafic de drogue quand un ami policier lui téléphone. Rien d'inhabituel à Anchorage, une grande ville qui fonctionne comme une petite bourgade. Policiers, agents du FBI, avocats, procureurs et juges, tout le monde se connaît. C'est le paradoxe des Alaskiens. Dans cet état aux hivers glacés et impitoyables, on trouve pléthore de solides gaillards qui vivent repliés sur eux-mêmes tout en étant conscients qu'un jour viendra où eux aussi auront besoin d'aide. Payne apprend qu'une jeune fille de 18 ans a disparu la veille au soir et qu'elle a échangé des textos houleux avec son petit copain. Une première théorie commence à se dégager. Samantha a vidé la caisse du café pour s'offrir un ou deux jours de liberté. Ce genre de choses arrive tout le temps à Anchorage. Pourtant, Payne n'est pas convaincu. Pour disparaître, il faut une stratégie à long terme et des moyens. Or, d'après ce qu'il sait, Samantha n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'argent. Payne connaît bien ces petits stands de café en bord de route où travaillent des jeunes femmes, souvent seules, à qui on demande de se mettre en bikini pour servir les clients l'été. Ces filles n'ont pas une vie facile, et Payne se doute qu'elles ne roulent pas sur l'or. Et puis, où pourrait bien aller une adolescente un mercredi soir par une nuit sombre et glaciale? La météo est particulièrement hostile à cette période de l'année. Les températures dépassent rarement le zéro et il y a de la neige partout. Ce soir-là, Samantha n'avait pas de voiture. Elle partage un pick-up avec son petit ami Dwayne et celui-ci en avait besoin. Anchorage n'est pas le genre de ville qu'on arpente à pied. Que Samantha soit partie errer seule dans ces conditions ne tient pas debout. Si elle était allée chez une copine, comme elle l'a dit à Duane dans un texto la veille, la police l'aurait probablement déjà retrouvée. Payne propose son aide à son ami policier.
« On a assez de gens sur le coup »,
lui répond celui-ci.
« Et on a notre petite idée sur ce qui s'est passé ».
Payne raccroche, contrarié. La première règle dans toute enquête, c'est de garder l'esprit ouvert. On évite de vouloir faire coller la situation à une hypothèse prématurée au risque de ne plus voir la situation que par ce prisme, en particulier s'il peut s'agir d'un crime. Et quand Payne apprend que la police n'a même pas mis la cahute sous scellé dès qu'elle a été informée de la disparition de Samantha et que la collègue de celle-ci a passé la matinée derrière le comptoir, il n'en revient pas. Si le café est effectivement une scène de crime, celle-ci a déjà été contaminée. Incroyable, songe l'agent du FBI. N'importe quel flic le sait. Les premières heures d'une enquête sont déterminantes. C'est à ce moment-là qu'on peut dégager les pistes les plus pertinentes et qu'on mène les interrogatoires les plus révélateurs. Et puis, confrontés à un tout nouveau mystère et à de tout nouveaux protagonistes, les inspecteurs eux-mêmes sont au maximum de leur curiosité et de leur investissement. Tout cela donne le ton de l'enquête. Pour ce qui est des disparitions, surtout quand il s'agit d'un enfant et Payne considère Samantha comme une enfant, ces premiers moments offrent aux inspecteurs les meilleures chances de retrouver les victimes saines et sauves, encore faut-il savoir les exploiter. Payne a beau ne pas vouloir marcher sur les plates-bandes de l'APD, il ne peut s'en empêcher. Il rappelle le poste de police, laisse des messages et attend toute la journée qu'on le recontacte. Enfin, à 20h, son téléphone sonne. C'est l'inspectrice Doll.
Il y a eu du changement,
annonce-t-elle. L'agent saute aussitôt dans sa voiture pour effectuer le trajet de 12 minutes qui sépare les bureaux du FBI du poste de police. Payne a 6 ans de plus que Doll et travaille pour le service fédéral de police judiciaire depuis 16 ans. Chose rare dans la région, il est natif d'Anchorage. La plupart des habitants, comme Doll, sont des expatriés venus des Lower 48, les 48 États contigus situés au sud de la frontière canadienne. Payne, lui, connaît l'âme de cette ville. Il a conscience des préjugés que peut avoir la police envers les plus pauvres, les petits délinquants, les paumés. Il ne veut pas voir la disparition de Samantha balayée sous le tapis. Si Payne ne manque pas de force de caractère, il ne paie pas de mine. D'après son physique, personne ne peut deviner qu'il s'agit là d'un agent qui a passé sa carrière à traquer des trafiquants de drogue et des criminels violents. Avec ses traits fins et sa carrure frêle, il fait plutôt penser à un comptable. Pourtant, Payne est un enquêteur né, qui se décrit lui-même comme au bord du trouble obsessionnel compulsif. D'ailleurs, son dévouement à son travail lui a coûté son premier mariage. C'est un perfectionniste qui suit religieusement le credo des enquêteurs de la brigade criminelle. Toujours faire de son mieux du premier coup, car il n'y a pas de seconde chance. Au bureau, on le taquine pour ses expressions favorites. Ça donne du grain à moudre. Dès qu'il trouve un indice ou la moindre miette d'information utile. Foutue loi de Murphy. Chaque fois qu'une enquête sur le point d'être résolue se casse inopinément la figure. Payne considère d'ailleurs Murphy comme son croque-mitaine attitré. À l'arrivée de Payne, Doll lui fait un rapide résumé de la situation. La police vient tout juste de regarder la vidéosurveillance du café que le propriétaire, qui se trouve à plus de 4000 km de là, a pourtant transmise 8 heures plus tôt. C'est exactement ce que craignait Payne. Une adolescente en danger se retrouve reléguée au second plan. Le père de Samantha, lui, a passé la nuit à appeler en vain le portable de sa fille et aujourd'hui, il a attendu tout l'après-midi devant le café où elle était censée travailler de 13h à 20h, espérant la voir revenir. « Montrez-moi ces images », ordonne Payne. Peu avant 20h, l'heure de la fermeture, Samantha apparaît à l'écran dans son haut vert pomme, ses longs cheveux châtains détachés. Elle est détendue et papote avec un client par la vitre de la cahute tout en préparant du café. Elle a l'air toute gentille. Songe Payne. Heureuse. Les clients restent hors du champ de la caméra, qu'ils ne filment que l'intérieur du stand. Samantha continue à s'affairer, puis 2 minutes et 6 secondes après le début de la vidéo, elle lève soudain les mains en l'air.